Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
L'Italie à l'heure du cinéma néo-réaliste.
Le néo-réalisme sur lequel on a tellement dit, finalement, était simplement une position morale. Ma préoccupation déjà à l'époque, c'était de découvrir la vérité. Je crois qu'il faut avoir le courage de voir la vérité, de la regarder en face telle qu'elle est. L'important, c'est de prendre conscience des choses.
La vérité en face, disait le réalisateur Roberto Rossellini. Puissant et doté de beaucoup de moyens, le cinéma fasciste avait pratiqué l'artifice. Dès 1942-43, avant même la chute de Mussolini, un nouveau cours s'était cependant ébauché avec les débuts de Visconti et de Sica. Et à la fin de la guerre, les studios de Cinecittà transformés en centres d'accueil de réfugiés, qu'est-ce qu'il allait rester du cinéma ? Un Américain vainqueur, l'amiral Stone, déclarait « L'Italie est un pays agricole, à quoi bon des films ?» Eh bien, le cinéma néo-réaliste allait incarner une voie de salut. Les Italiens, en 1945, demeuraient comme sidérés devant l'effondrement du monde d'apparence que leur avait construit le fascisme. Et le cinéma néo-réaliste leur disait « Découvrons enfin ce que nous étions, ce que nous sommes réellement ». Le cinéma fasciste prônait la force, nous retrouverons le regard de la tendresse. Dans le vocabulaire d'aujourd'hui, on dirait qu'était proposé un nouveau récit au pays. Bien davantage, le cinéma néo-réaliste a restauré l'image de l'Italie à l'extérieur, et notamment en France, où Rome, ville ouverte, le voleur de bicyclette ont remporté un succès populaire et une adhésion intellectuelle. La guerre froide allait pulvériser le rêve de ce renouveau social et moral partageable par tous. Le néo-réalisme éclaté, mais en multiples feux, il jettera ses derniers éclats au début des années 50 et il aura contribué à faire du cinéma italien le plus grand d'Europe dans les années 60.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Mathias Sabourdin, bonjour.
Bonjour.
Vous n'êtes jamais allé au festival de Villerue qui commence ce 24 octobre pendant 15 jours le cinéma italien dans une ville italienne de Lorraine.
Malheureusement, je n'y suis jamais allé, mais alors j'ai des nombreux collaborateurs du dictionnaire qui y sont allés, qui m'ont dit que c'était une expérience fantastique de retrouver la mémoire ouvrière de l'immigration italienne en Lorraine. En effet, ce contraste, cette ville italienne au sein de la France, quoi. C'était fantastique.
Le dictionnaire. Alors, le dictionnaire, c'est un grand œuvre collectif. Vous êtes 20-25, une moitié d'Italiens, une moitié de Français. Ça paraît aux éditions Nouveau Monde. Cette aventure collective a duré 6 ans. Et alors, il faut que je vous présente quand même. Vous êtes un directeur de la photo, vous êtes un homme du métier et vous avez voulu donner leur place aux gens du métier, et pas seulement aux réalisateurs.
Absolument, absolument. Alors ça m'a paru essentiel, indépendamment de mon métier et de mon goût personnel, ça m'a paru essentiel aussi dans l'histoire du cinéma italien. C'est-à-dire que les techniciens, les musiciens, les producteurs ont eu un rôle éminemment important dans le cinéma italien, surtout que ce rôle a été assumé. Parce qu'en France, ils ont également un rôle, mais beaucoup moins assumé, beaucoup plus secret. Voilà.
Le prélude, donc, c'est le cinéma fasciste. Le cinéma fasciste, ça a son importance, parce que Mussolini savait que le cinéma devait être développé. Je citais Cinecittà. Cinecittà, c'est une œuvre de Mussolini.
Oui. En 1937, Mussolini voulait faire le plus grand studio, la plus grande infrastructure cinématographique d'Europe. Il voulait concurrencer Hollywood. En 1935, il crée aussi une très grande école de cinéma, le Centro Sperimentale di Cinematografia. Je vais y arriver.
Je vous laisse prononcer l'italien,
oui,
vous allez faire mieux que moi quand même.
Je me suis ridiculisé. Le Centre Expérimental de Cinématographie, on va le faire en français, ce sera plus simple. Qui existe toujours, qui est une excellente école. Et Mussolini voulait vraiment faire de l'Italie un centre européen du cinéma.
À Villerue, allez à Villerue jusque mi-novembre, on projette. Les enfants nous regardent, vous pouvez peut-être le dire en italien. Bambini.
Chihuahua.
Voilà. Ça, c'est un film qui date d'avant la chute de Mussolini. Dès 1942-43, les indices sont là présents d'un renouveau possible.
Absolument. Il y a 4 pas dans les nuages d'Alessandro Blasetti. Il y a Ossessione, qui est considéré, Les Amants Diaboliques de Visconti, qui est considéré comme le premier film du néo-réalisme. Il y a en effet des premiers signes avant-coureurs d'une analyse de la réalité en Italie. On regarde de nouvelles personnes, de nouvelles façons de filmer aussi. Mais surtout, on s'intéresse aux pauvres, aux exclus, aux petits peuples.
Il y a aussi,
dès la fin du fascisme.
En même temps, pour marquer qu'il y a continuité, un certain nombre de cinéastes qui ont travaillé sous le fascisme vont voir leur carrière continuer.
Bah évidemment, Roberto Rossellini est le premier à débuter en 1941 sa carrière. Il y a Mario Camerini
qui a fait... Alors Camerini, inusable, voilà, 50 ans.
Des grandes comédies avec De Sica, Les hommes qu'elle mufle, qui a fait des grands succès et des très bonnes comédies. Un peu inspiré de la comédie américaine. Dans le cadre fasciste, il a réussi à faire ça, ce petit miracle.
Et Rossellini, lui, il avait tourné Un pilote revient, Un homme à la croix, l'histoire d'un aumônier sur le front soviétique. Il est catholique et en 1945, il réalise Rome, ville ouverte, où on voit face à l'occupant allemand un prêtre qui promet de couvrir un militant communiste en invoquant le secret de la confession, tandis que le militant communiste, lui, promet de ne jamais parler.
Moi, personnellement, je n'ai rien à dire parce que je ne sais presque rien et le peu que je sais, je l'ai appris en confession. Et ces secrets ne doivent pas être révélés, c'est notre discipline.
Alors, demandez à votre ami de parler.
Il ne doit rien savoir de ce que vous suspectez.
Vous n'allez pas me faire croire que son identité exacte vous était inconnue, ni son activité réelle.
Je ne sais qu'une chose, c'est un homme qui avait bien besoin de ma modeste assistance.
Ah oui, alors je vais vous dire, moi, qui il est. C'est un anarchiste, un mécréant, un ennemi de Dieu.
Je ne suis qu'un modeste prêtre. Et je crois que celui qui combat pour la justice et la liberté chemine dans les voies du Seigneur.
En voilà assez, ne faites pas de sermon ici, le prêtre. Si vous décidez de ne rien me dire, essayez de convaincre votre compagnon. Il s'agit de lui épargner certaines souffrances que vous ne pourriez imaginer.
Je pense que c'est inutile, parce que cet homme se taira. Vous ne réussirez pas à le faire parler.
Vous voulerez le prêtre, il parlera.
Je prierai pour lui.
Regarde, prêtre, regarde. C'est ça ton amour pour ton frère? Tu as préféré le laisser mettre en cet état plutôt que de parler.
Tu n'as pas parlé.
Mais, prêtre hypocrite, n'espère pas te sauver, ni sauver tes complices. Tu auras la fin que tu mérites, celle des traîtres. Vous détruirons tous.
On ne se ridiculise pas en présentant une version française.
C'est assez étrange, en effet, oui.
Mais le film a eu beaucoup de succès en France. Il a contribué à restaurer l'image de l'Italie, de même qu'en Italie. Il a contribué à créer de nouvelles figures, comment dire, d'identification, d'unification du pays. Un récit après le récit fasciste.
Absolument. Le Rome ville ouverte, il y a un récit national qui se refait. Il y a l'idée de réécrire finalement une nouvelle histoire, une page est tournée. Il y a le prêtre d'un côté qui est torturé, il y a le militant communiste qui est torturé également, et les deux s'unissent, une espèce de réunion nationale qui correspond exactement à la situation politique du pays à ce moment-là, avec le Comité national de libération. Donc l'idée de repartir sur de nouvelles bases et d'oublier l'expérience fasciste.
Un renouveau moral qu'on puisse partager. On est bien avant l'époque de Don Camillo. Voir la vérité en face, disait Rossellini, qu'on entendait dans l'ouverture de l'émission. Ça veut dire que le cinéma néo-réaliste, c'est pas une école, mais c'est quand même une constellation dans la simultanéité, s'intéresse à la vie des oubliés de ceux qui étaient dissimulés sous le tapis.
Absolument. L'idée du néo-réalisme, pour résumer un peu rapidement, c'est vraiment de faire descendre la caméra dans la rue pour filmer l'homme de la rue. Donc c'est de montrer les enfants, les malheureux, les couples qui se séparent, qui s'entendent mal. Il y a aussi cet élément, il n'y a pas que l'élément politique, il y a aussi un élément social et sociologique aussi. Hein. Quand on reprend Les Amants diaboliques, c'est un film sur la sexualité.
Dès 43.
Voilà, dès 43, l'homosexualité est traitée. Dans Allemagne Zéro, on parle de pédophilie. Enfin, le champ est très vaste. Mais en effet, l'idée, c'est de montrer un nouveau visage de l'Italie qui serait le visage réel.
Alors, les pauvres dans la rue, mais aussi bien, on parlait de Visconti, les pêcheurs en Sicile.
Absolument, dans La Terre tremble. Oui, un très très beau film. Où Visconti fait jouer aux pêcheurs leur propre rôle. C'est-à-dire, il n'y a que dans le film les habitants du village, du village sicilien de pêcheurs à côté de Palerme. Et ça, c'est la grande révolution aussi, vraiment essentielle du néo-réalisme, c'est l'intégration de l'élément documentaire au sein de la fiction.
Enfin, la révolution, il y a un modèle, Robert Flaherty, Les Hommes d'Aran, qui était allé filmer les gens de l'île d'Aran pendant de longs mois.
Il y a Flaherty, il y a Renoir, oui, il y a Tony et il y a Flaherty, oui, les grands modèles, c'est le cinéma français et le cinéma documentaire américain.
Alors, vous parliez de la vie de la famille. C'est le thème de Villerue cette année. Allez-y, la famille dans le cinéma italien. Nous sommes ici avec Vittorio De Sica qui explique quel était le projet de Sciuccia. C'est un film qui n'est pas des plus connus et qui date de 1946.
Sciuccia est un film très tragique pour démontrer, est un cri d'alerte en faveur de cette jeunesse qui allait en bas, plus bas encore. Alors le film était une petite pierre pour la reconstruction morale de notre pays.
Ces enfants, c'était les enfants de la guerre, c'était des enfants sans parents.
Oui. J'ai vécu avec eux pendant la fin de la guerre, je suivais ces enfants. Et j'ai connu deux. Une d'eux s'appelait Petite Singe. Il avait un visage qui se ressemblait à un petit singe.
Comment on dit en italien ?
Chimietta. Et l'autre s'appelait Capellone, un gros chapeau allemand qu'il avait et une petite pèlerine. Il est complètement nu au-dessous de cette pèlerine, complètement nu. Et je suivais ces deux garçons et je le voyais dans le trottoir de Villa Borghese à Rome, sur un cheval. Ils sont descendus, je lui demandais, mais quand tu as payé là, 3000 lire, et comme tu avais, oh, je volais un pneu. Alors, et maintenant, je vais voler un autre pneu et je reviens et nous revenons ici et nous montons
un cheval. Chaque fois, il louait le cheval.
Oui, c'est une espèce de crime innocent et poétique.
Peut-être ceux qui aiment le cinéma à la maison, la télévision, ont-ils reconnu Claude Santelli dans le titre de l'émission où est extrait ce morceau est très néo-réaliste. Ça s'appelle La nuit écoute, cette émission. Il y a quand même une différence avec le documentaire, c'est qu'il y a un scénariste dans Sciuccia.
Il y a un scénariste qui est Cesare Zavattini, qui est, on peut dire, vraiment un auteur à part entière, au même titre qu'un réalisateur. C'est-à-dire que si on regarde la filmographie de Zavattini, à quelques exceptions près, parce que c'est quelqu'un qui a commencé en faisant des comédies sous le fascisme, qui a vraiment une ligne et un style, au même titre qu'un cinéaste ou un romancier. Il y a un style Zavattini. Zavattini, c'est un scénariste qui voulait restituer la vérité de l'homme en observant ses gestes quotidiens, sa quotidienneté, en fait. Voilà. C'est ce qu'on retrouve vraiment dans Le voleur de bicyclette, cette attention aux détails, aux petites choses qui, finalement, le drame se noue dans Le voleur de bicyclette, ou dans Sciuccia, ou même dans Miracle à Milan, qui pourtant est une fable, se noue par le quotidien, par les petits échanges, les oublis dans Le voleur de bicyclette, c'est parce que on regardait à gauche qu'on se fait voler sa bicyclette. Enfin, tout est comme ça, et le drame se noue par les petites choses, a priori anodines, que le cinéma avant ne traitait pas. Et d'ailleurs, pour prolonger cette idée du scénariste, quand on entend De Sica, on a l'impression qu'il a fait des films parce qu'il a observé la réalité, il a vu des gens dans la rue, ce qui est vrai. Mais il y a de la mise en scène, c'est-à-dire que le néo-réalisme, c'est du cinéma. C'est pas des gens qui ont juste observé les choses et qui ont après appuyé sur le bouton de la caméra.
C'est-à-dire que quand on met dans un plan intermédiaire sur un mur de salpêtre des fourmis qui font leur travail, ça veut dire quelque chose.
Absolument. Vous citez André Bazin. Hein, ouais. Absolument. Ça, c'est donc Bertoudi. Une séquence magnifique où il envoie une jeune servante dans la pension de famille dans laquelle se déroule une bonne partie du film, qui est enceinte, qui n'a pas de mari, enfin qui est une femme, comment on appelle ça, une femme seule, une fille mère.
Une fille mère, diraient les catholiques.
Absolument, c'est une fille mère. Et on voit juste ses gestes du matin, par l'observation et la façon de filmer, un long plan séquence où on la suit avec un insert sur les fourmis. On comprend le désarroi de cette jeune fille.
André Bazin a beaucoup soutenu en France le cinéma néo-réaliste et du voleur de bicyclette, encore une autre œuvre de De Sica de 1948. Il disait que c'était un des premiers exemples de cinéma à l'état pur. Alors, l'héroïne est d'une certaine manière la bicyclette qui est essentielle pour aller au travail, comme aujourd'hui une voiture pour un ouvrier rural est essentielle. Mais les pauvres peuvent voler les pauvres. Ici, le père, devant son propre fils, a volé une bicyclette et provoqué un attroupement de pauvres.
C'est à ta honte de voler une bonne correction. Ça lui entrera au vide.
C'est
à
toi, moi. C'est
à toi,
non,
non, non,
non, non,
non,
non, non,
non,
non, commissariat.
Ah oui, tu l'as vu. Il y a assez de fripouilles comme ça dans les rues. Tu verras ton fils, il prendra un peu de temps.
Le poste est à côté, c'est pas la
grande ville tous.
En route. Vous venez avec nous pour le témoignage ?
Oh, deux témoins, c'est suffisant.
Allez, ça va, laissez-le partir.
Faut l'envoyer en prison.
J'ai pas de temps à perdre avec lui. Qu'il aille se faire pendre ailleurs. Bonsoir tout le monde.
T'as de la veine de pas être tombé sur moi. T'aurais vu comment je t'aurais renvoyé. Fous-moi le camp, tiens. Ça me dégoûte de t'avoir touché.
Racaille, tu lui enseignes de belles choses à ton fils.
Ah,
Bah, c'est pas si mal en version française, je trouve, parce que cet accent parigot, ça correspond aussi au milieu populaire qui est celui des héros du voleur de bicyclette.
C'est ce que je me disais également, c'est que finalement, il y a une logique. Oui, ils ont décalé ce qui était décalable, ça se passe à Rome. Là, on a l'impression d'entendre un film de Duvivier, mais ce qui finalement, c'est aussi les modèles du néoréalisme, c'est-à-dire les seuls films que pouvaient voir les cinéastes italiens ou les critiques italiens dans les années 30, c'était des films français. Ils ont été très marqués par le cinéma français, donc c'est amusant finalement, c'est presque un juste retour des choses. Bon, c'est quand même
le policier qui laisse partir le voleur de bicyclette, il a les yeux de la tendresse. Ça, c'est important quand même dans le cinéma néoréaliste. On avait à l'époque fasciste un goût pour la force, la virilité, là. Ah oui, on retrouve la tendresse.
Ça, c'est incroyable, cette séquence-là, à la fin, où le père vole la bicyclette et où la personne à qui il l'a volée le laisse partir, justement parce qu'il le voit, il comprend que c'est son semblable. Il comprend que cet homme, c'est lui, quoi. Et ça, c'est sûr que l'humanisme-là... Mais il est transcrit par une mise en scène tellement, tellement fine, c'est magnifique.
3 500 000 entrées en Italie et beaucoup d'échos à l'étranger. L'image de l'Italie a été changée dans les regards français par le voleur de bicyclettes. Ah bah et par Rome bien ouverte.
Oui, aux États-Unis, c'est un retentissement énorme. En France, Bazin, Godard a dit que le néoréalisme avait redonné un visage noble à l'Italie. Enfin, oui, c'est...
Alors, on a parlé des oubliés, mais il arrive que le cinéma néoréaliste, on va maintenant passer quelques années et aller presque à la queue de la comète, au bout de la période néoréaliste, s'intéresse à la bourgeoisie, aux oisifs. Il y a un film de Fellini qui s'appelle...
Les Inutiles en français, mais Vitelloni
en italien, veaux. Avec des désœuvrés qui n'ont que faire. Et quand il voit des travailleurs devant lesquels ils passent pour aller à leur loisir, ils osent en plus leur faire un bras d'honneur.
Lavoratori!
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Mathias Sabourdin, notre invité, le chef de file d'un grand travail collectif, le dictionnaire du cinéma italien aux éditions Nouveau Monde, où on voit bien sûr un article Nino Rota. On entendait la musique de Nino Rota composée pour I Vitelloni de Fellini. Alors, commençons peut-être par la petite séquence, pour une fois en italien, qu'on a entendue, puis après... On va parler du travail que Fellini faisait en pair avec Nino Rota.
Alors, cette séquence est très drôle pour différentes raisons. C'est Alberto Sordi. Donc, les Vitelloni, c'est une bande de jeunes désœuvrés, d'adolescents attardés qui traînent, qui passent leur journée au bar, à rien faire. Et Sordi est un peu le leader. Et là, ce qu'on vient d'entendre, c'est Alberto Sordi qui dit Lavoratori. Et qui fait un bras d'honneur. Donc, travailleur, il fait un bras d'honneur, il voit des ouvriers sur la route, il passe en voiture, il voit des ouvriers sur la route et il leur fait un bras d'honneur. Et 3 secondes après, la voiture cale parce qu'elle n'a plus d'essence, je crois. Et donc, les travailleurs arrivent et lui tapent dessus. Donc, c'est une séquence très drôle parce que quand on sait le poids du Parti communiste italien, le rapport au néoréalisme, aux travailleurs, le respect du travailleur, espèce de pied de nez ironique de Fellini, avec ce film, Fellini introduit vraiment une. Lui-même qui vient du néoréalisme, puisqu'il était le scénariste de Rossellini, il introduit vraiment l'ironie, une espèce de distance. En ce sens-là, I Vitelloni, oui, c'est un des films qui annonce la fin du néoréalisme. Ça,
51.
C'est
La paire avec Nino Rota. Ces gens-là fonctionnent en paire.
Oui, alors.
Zabattini et De Sica, Nino Rota absolument. Et Fellini, ça va durer jusqu'à Prova d'Orchestra.
Oui, ça va durer jusqu'à la mort de Rota, juste après Prova d'Orchestra. Rota et Fellini, c'est bon, enfin, on sait, Rota est devenu une star grâce à Fellini. Et Fellini disait lui-même qu'il devait une part de son cinéma à Rota. C'est un des plus grands musiciens de l'histoire du cinéma italien. Il a aussi travaillé avec Visconti. D'ailleurs, il a fait la musique de Rocco et ses frères et du Guépard. Pour aller sur l'histoire des couples de techniciens et de cinéastes dans le cinéma italien, c'est vrai que c'est très important. Si on prend évidemment Ennio Morricone et Sergio Leone, Bertolucci et son chef opérateur Vittorio Storaro. Et vraiment la spécificité du cinéma italien, je crois, c'est que les cinéastes ont toujours assumé et mis en avant leurs collaborateurs. Chez Fellini, c'est évident, il a laissé un rôle gigantesque à Nino Rota, mais vraiment gigantesque. Et dans ses films, la musique revient, et c'est un des fils conducteurs de la narration. Et évidemment, chez Sergio Leone et Ennio Morricone, on sort du néo-réalisme.
Revenons au néo-réalisme. Mais, voilà. Il y a une difficulté pour Zachary Boubli qui a préparé cette émission, c'est que c'est pas facile de rendre un film à la radio, mais c'est particulièrement difficile à cause du style du néo-réalisme. Il n'y a pas beaucoup d'action.
Non, il n'y a pas beaucoup d'action. Alors c'est vrai que, pour revenir à André Bazin, ce que mettait en avant Bazin justement, c'était que le néo-réalisme était, pour employer un grand mot, une phénoménologie. C'est-à-dire que c'était un...
Oh là là.
Oui, bon, c'est un cinéma du fait et du quotidien contre l'action, qui est anti-spectaculaire. Alors si on reprend toujours l'écriture de Zavattini, son rêve c'était ça, c'était de filmer la journée d'un homme simple, son quotidien, de son lever à son coucher, sans action. Et le spectacle pour lui c'était la vie de l'homme. Et c'est vrai que dans le néo-réalisme, c'est très important et c'est une vraie révolution. Ça va influencer la nouvelle vague, ça va influencer le free cinéma en Angleterre. C'est une vraie rupture, il y a un vrai hiatus avec le néo-réalisme à ce niveau-là.
On disait la queue de la comète, fin des années 40, début des années 50. Beaucoup d'interrogations naissent du néo-réalisme. Voici un film de 51, Bellissima, de Visconti, avec une actrice très importante. Les actrices et les acteurs, vous avez cité Sordi, on n'a pas cité Anna Magnani.
Oui, Anna Magnani, évidemment, qui est protagoniste de Rome-Ville ouverte, qui se fait tuer par les nazis dans Rome-Ville ouverte. Oui.
Et là, elle est dans Bellissima, et elle a l'idée de propulser dans le monde du cinéma sa fille.
Il y a des concours déjà à l'époque, des castings.
De casting sauvage, oui, qui est mené par alors un cinéaste qui joue son propre rôle, Alessandro Blasetti, dans le film, qui lance un casting sauvage, donc qui fait une annonce dans un journal disant « Nous cherchons une jeune fille pour le prochain film de Blasetti ». Alors évidemment, il n'y a que Faramineuza Cinecittà et Anna Magnani est la mère de cette petite fille qu'elle veut faire réussir. Donc c'est un film sur le miroir aux alouettes, mais qui est aussi qu'entérine de façon réflexive la fin du néo-réalisme.
Alors le miroir aux alouettes, il est dénoncé devant Anna Magnani et sa fille par une fille du métier, par une simple monteuse que voici.
Io non sono un'attrice.
Mais ma bonne dame, je ne suis pas une actrice.
Così. Perché ero il tipo che serviva a loro.
J'ai dû faire un ou deux petits rôles parce qu'on avait besoin de quelqu'un avec mon physique et c'est tout. Je suis retournée vivre avec mon ex-fiancé. Vous savez ce qu'on dit ? Soyez un acteur sérieux, ne vous faites pas d'illusions sur du rien, ayez un métier. Désolée de vous dire ça, vous avez l'air plein d'espoir. Vous avez peut-être raison, hein, moi j'y ai pas cru. Ce sont des menteurs, des profiteurs, des illusionnistes. Tout ça m'était monté à la tête. Je me croyais si belle, si talentueuse, et au final rien, je suis au montage.
C'est bien qu'il y ait une menteuse. Il y en a dans votre dictionnaire.
Il y en a, il y en a.
Des menteurs et des menteuses. Oui, donc le cinéma, miroir aux alouettes, est lieu de grandes difficultés pour les meilleurs du cinéma néo-réaliste. Alors, vous parliez tout à l'heure d'Umberto X, un film de 1951 aussi, où De Sica a mis le meilleur de lui-même, évoquant d'ailleurs le personnage de son père, qui est un peu l'équivalent du professeur à la retraite, qui est là avec une pension misérable, expulsé par sa logeuse et fort démuni. Et alors,
le film est très mal reçu. C'est un échec commercial énorme après le succès du Voleur de bicyclette. Et c'est un film qui est attaqué directement par le pouvoir à l'époque, le pouvoir démocrate chrétien représenté notamment par son ministre du spectacle et du tourisme, Giulio Andreotti.
Futur inoxydable président du Conseil
Absolument.
Italien.
Il dit.
Déjà là.
Lui-même.
Ouais. Qu'est-ce qu'il dit ?
Alors, il dit que le film démoralise et est un portrait démoralisant de l'Italie. Dresse un portrait trop critique de l'Italie.
Ben oui, il n'y a pas d'économiquement faible, surtout des anciens professeurs, c'est pas possible.
Voilà, ouais. En montrant un fonctionnaire qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Le film montrerait, enfin d'après André Autti, toujours un portrait faux, communiste en gros. Ce qui veut dire, c'est que De Sica fait la propagande du PCI, alors que De Sica n'était pas communiste hein, par ailleurs, mais certains l'étaient, au sein du néo-réalisme, Visconti l'était, De Sanctis l'était. C'était pas le cas de De Sica, mais ce qu'il attaque directement, c'est son ennemi politique derrière.
C'est-à-dire que le néo-réalisme est mort de la guerre froide.
Oui, absolument.
Qui divise l'Italie reconstituée d'après la fin de la guerre.
Et aussi, quand même, du boom économique. C'est-à-dire qu'en 1952, le pays va mieux qu'en 1945. Donc, les gens ont envie de se distraire aussi.
Toujours du mal d'André Otti, mais il a fait beaucoup pour le cinéma italien. Cinecittà est reconstitué, les producteurs sont soutenus. Vous dites, dans votre dictionnaire du cinéma italien, Mathias Sabourdin, il y a 150 films par an au début des années 1950.
Ah bah, André Otti mène une politique très efficace d'un point de vue économique. Il recrée l'industrie italienne qui avait été détruite par la guerre. Parce que ce n'est pas le néo-réalisme qui a reconstitué l'industrie. Le néo-réalisme a reconstruit l'image du cinéma italien, a reconstruit le cinéma italien d'un point de vue esthétique. Mais c'est évident qu'André Otti, en fait, il a fait une loi en 1949 qui s'appelle la loi André Otti, qui a favorisé économiquement le cinéma par des aides fiscales, notamment via le cinéma américain, un système un peu complexe, mais qui a vraiment, vraiment aidé le cinéma italien d'un point de vue économique.
Avec ce discours, la culture sert l'économie. On connaît toute cette thématique et du coup des productions, comment dire, d'un cinéma d'abondance. Parce qu'on dit qu'il y a 3 500 000 spectateurs pour Rome, Ville ouverte ou Voleur de bicyclette. Mais Toto et le Giro, 48, 4 millions. Toto cherche un appartement, 49, 6 millions. Toto, le Moco, 49, plus de 4 millions.
Mia bella signorina che ascolti lassù, so chiudi gli occhi e sogna, so chiudi gli occhi e sogna, un giovanotto e un cuor che ti piace di più, e ad altro non pensare finché c'è la gioventù. Sogna di una casetta e un bel chiaro di luna, sogni un bel pupo biondo o una bambola bruna, mia bella signorina che ascolti lassù, so chiudi gli occhi e sogna finché c'è la gioventù.
Il n'y a pas d'article Toto dans le dictionnaire du cinéma italien, il est partout, mais...
Il n'y a pas les comédiens dans le dictionnaire. Ouais. Alors, effectivement, il y aurait pu avoir Toto, parce que Toto, c'est presque un auteur de ces films. Il y a une marque Toto. Il est tellement présent, il écrit ses dialogues. C'est un tel personnage.
Il y a aussi le péplum que André Otti va soutenir ou appeler de ses voeux. Mais il y avait des péplums qui avaient beaucoup de succès pendant le néo-réalisme. Les derniers jours de Pompéi, 1950, 8,5 millions de spectateurs. On ne parle des spectateurs qu'en Italie, là.
Absolument, absolument. Mais les plus gros succès, c'est vraiment les mélodrames, notamment un cinéaste qu'on a un peu oublié, mais il y a eu une rétrospective à la Cinémathèque l'année dernière, Raffaello Matarazzo. Des grands mélodrames qui ont eu des très très gros succès, et les films de Toto et les comédies de Toto. Mais il y a de très bonnes comédies de Toto, Gendarme et voleur de Steno et Monicelli, c'est un chef-d'œuvre, et qui d'ailleurs est influencé par le néo-réalisme, puisque ça se passe vraiment dans les faubourgs de Rome. Ça montre un petit peuple comme ça, d'un petit peuple de gens qui vivent de rapine, joué par Toto, confronté à un gendarme très sympathique.
Vous êtes fier de ne pas avoir fait de séparation morale entre des films de grande qualité et des films plus populaires, et d'avoir œuvré au dernier chapitre avec un soin particulier. Ce dernier chapitre, dans le dictionnaire du cinéma italien de Nouveau Monde, est consacré au box-office.
Absolument. Alors... Qu'est-ce que vous voulez que je dise du box-office? Est-ce que vous voulez qu'on parte sur la période néo-réaliste?
Non, mais c'est très important pour vous.
Ah, moi, c'est très important, parce que ça montre, je trouve, l'intérêt du box-office, c'est un peu de relativiser a posteriori quelle a été la vraie réception par le public des films. Je trouve ça intéressant.
Merci à vous. Dans un instant, l'émission de Mathieu Vidard. Mathieu Vidard qui nous dit...
On va faire une discussion autour de la vision, Jean, aujourd'hui.
C'est très bien, nous quittons un directeur de la photographie de cinéma. L'émission a été préparée par Zachary Boublil, à la réalisation Jacques Sigal, à la technique Alexandre Chenet.